d'économie.
À la une, la revue annuelle de performance de la Banque mondiale, avec un portefeuille estimé à 3,1 milliards de dollars américains au financement de 26 projets en RDC, la Banque mondiale estime que le pays a amélioré son pouvoir de consommation des crédits, soit 237 millions déjà décaissés pour 2015. Écho d'économie reçoit ce soir un député du Parlement européen. Avec Marie Arena, nous parlerons du règlement contre l'exploitation des minerais dits de sang dans les pays en développement, dont la RDC. Et puis nous ferons un tour dans la province de l'Équateur pour mesurer l'impact du projet P4P, un projet de la FAO et du PAM qui aide les paysans à produire davantage et à écouler leur production. Bonsoir et bienvenue à tous. La Banque mondiale a procédé ce jeudi à la revue annuelle de performance de son portefeuille d'intervention en RDC. Cette revue annuelle a regroupé d'une part les cadres de coordination et les cellules d'exécution des projets ainsi que leurs ministères sectoriels et d'autre part les cadres techniques et de gestion responsables du suivi des projets financés par la Banque mondiale en RDC. De manière globale, la RDC a amélioré son pouvoir de consommation des crédits. Daniel Tambinzoni pour les détails.
Pour une moyenne régionale fixé à 23% de décaissement pour l'année calendaire, la RDC a réalisé 22,8%, soit 237 millions de dollars déjà décaissés pour l'année 2015 sur l'ensemble des projets. Et du coup, la RDC se place troisième en Afrique subsaharienne en termes de décaissement après le Nigeria et l'Éthiopie. Selon l'évaluation, le portefeuille de la Banque mondiale en RDC est estimé aujourd'hui à 3,1 milliards de dollars américains pour le financement de 26 projets. Plus de 60% de ces fonds sont consacrés aux travaux d'infrastructure et d'énergie, dont la réhabilitation de Inga 1 et 2. La Banque mondiale a relevé quelques entraves à la bonne gestion des projets et qui requièrent une attention particulière. Il s'agit notamment de la faiblesse du cadre de suivi et évaluation de projets, la conception trop ambitieuse et complexe des projets et un cadre institutionnel de mise en œuvre marqué par le retard dans les réformes clés. La prise en charge des agents de l'État engagés dans les projets et la gestion financière en constitue un autre handicap. Quant aux attentes de la Banque mondiale, les gestionnaires de projets réunis devraient identifier des bonnes mesures pour accélérer la mise en œuvre des projets, ce qui permettrait de donner de bons résultats.
Je vous l'ai annoncé, le Parlement européen a voté ce mercredi un règlement dont l'objectif est de briser le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et le financement des conflits armés dans les pays en développement, dont la RDC. Et pour en parler, nous avons joint Madame Marie Arena, qui est membre de ce Parlement et qui va nous dire d'abord ce que dit concrètement ce règlement.
Alors ce règlement, il dit quelque chose de très simple. Il dit que toutes les entreprises qui vont produire ou qui vont vendre des produits qui contiennent les 3 TG. Alors les 3 TG, ce sont les 3 minerais qui sont l'étain, le tungstène et le coltan, plus l'or, devront garantir une information de traçabilité de ces minerais. Elles devront avoir une information transparente de l'origine de ces minerais.
En 2010 déjà, les États-Unis ont adopté une loi similaire, Dodd-Frank Act. Aujourd'hui, c'est le Parlement européen. Les récalcitrants, il y en aura, c'est presque inévitable. Quelles sanctions prévoyez-vous contre eux?
Alors, je pense qu'il est important, à partir du moment où une mesure est obligatoire, il est important de prévoir des mesures de sanctions. Par exemple, comme l'impossibilité de vendre un produit qui n'aura pas fait l'objet de cette traçabilité. Et donc pour nous, si obligation il y a, il doit y avoir également sanction. Par ailleurs, nous avons aussi prévu des mesures d'accompagnement pour aller vers cette traçabilité obligatoire, de l'accompagnement dans les pays d'origine, par exemple en République démocratique du Congo. Vous avez mis en place les systèmes des mines qualifiées, c'est-à-dire qui permet dès la sortie du minerai de la mine d'avoir la traçabilité. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de mines qualifiées. Et donc comment peut-on aider à avoir plus de mines qualifiées? Ce sont les mesures d'accompagnement que l'on doit envisager avec la RDC, mais aussi les mesures d'accompagnement chez nous, des entreprises, pour pouvoir rentrer dans le processus de la traçabilité. Tout ça a été prévu dans le règlement que nous avons voté hier.
Madame Maria Arena, autant la RDC régorge plusieurs minerais dont l'étain, l'or, le tantale que nous venons de citer, utilisé dans la plupart d'appareils électroniques, autant le pays régorge des conflits armés. En termes d'argent, à combien estimez-vous la valeur des minerais de sang qui viennent de la RDC en faveur de ces entreprises?
Alors aujourd'hui, c'est très difficile d'estimer cela dans la mesure où le marché n'est absolument pas transparent. Et donc, comme l'entreprise européenne aujourd'hui n'a aucune obligation de dire d'où viennent ces minerais et qu'est-ce qu'elle a payé pour ces minerais, eh bien, il est très difficile de connaître exactement le manque à gagner de la population congolaise vis-à-vis des ressources qu'elle détient. Par contre, avec ce que nous mettons en place, il y aura de la transparence et donc la RDC connaîtra, je dirais, au centime près, sont dus par rapport à l'exploitation de ces minerais.
Madame Maria Arena, je rappelle que vous êtes membre du Parlement européen. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
Et nous complétons cet entretien avec un zoom sur les minerais de sang. Daniel Tambinzoni.
Lorsqu'on parle de minerais de sang, on fait allusion aux minerais exploités de manière illégale par les groupes armés. Ces groupes armés qui exploitent ces minerais en font un commerce illicite pour financer leur guerre. Les minerais associés aux conflits armés sont les plus souvent le coltan, la cassiterite, le tungstène, l'or, le diamant, pour ne citer que cela. Plusieurs initiatives ont été mise en place pour lutter contre le commerce de ces minerais qui alimentent les conflits. Pour le cas du diamant par exemple, il y a le processus de Kimberley. Dans ce processus, tout diamant à exporter doit être accompagné d'un certificat. C'est ce certificat qui atteste que le diamant a été exploité et exporté dans des conditions légales. Tout diamant qui ne respecte pas les normes du processus de Kimberley ne peut pas être commercialisé. Actuellement, on parle également de la traçabilité des minerais. Il s'agit ici de tracer la chaîne d'exploitation et de commercialisation des produits miniers du puits d'extraction jusqu'à l'acheteur final. C'est au fait identifier tous les intervenants de cette chaîne, connaître le puits d'où est extrait le minerai, qui exploite ce puits, à qui le creuseur a vendu ses produits, qui les a transportés et qui les a exportés. Il y a aussi comme initiative le processus de qualification des mines. Le processus consiste à s'assurer si les sites miniers ne sont pas contrôlés par des groupes armés. Tout récemment, on a parlé de la loi Dodd-Frank, une loi américaine qui oblige tous les utilisateurs des minerais à déclarer les fournisseurs de matières et à s'assurer que les groupes armés ne sont pas impliqués dans cette chaîne. Cela pourrait décourager ou carrément mettre fin au commerce des minerais de sang. Et comme nous l'avons dit tantôt, le Parlement européen a voté ce mercredi 20 mai un règlement dont l'objectif est de briser le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et le financement des conflits armés dans les pays en développement, dont la République démocratique du Congo.
Écho d'économie. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Ici, le PAM et la FAO ainsi que l'ONG britannique Oxfam exécutent depuis 2012 le projet P4P dans les territoires de Bikoro et Dingende. Le projet consiste notamment à appuyer les paysans à produire davantage et à écouler leur production en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Deux ans après, nous parlons de l'impact socio-économique sur la population ciblée. Et c'est avec Paul-Richard Malingela.
Actuellement, le projet P4P cible 8000 producteurs agricoles, a indiqué son coordonnateur national Agbessi Amewa. D'abord, le projet les a organisés en 17 unions de production et remis des intrants nécessaires. Il a aussi construit des marchés et des entrepôts pour faciliter l'évacuation et les transactions commerciales. Les bailleurs de fonds du projet sont allés au début de la semaine visiter ces réalisations. Rien que pour l'année dernière, plus de 300 tonnes de vivres ont été stockées dans ces dépôts. Et le grand client, c'est le PAM, qui rachète souvent à ses paysans par union de production. Ainsi, un paysan pygmé d'Ingende a témoigné qu'à la répartition des recettes dues à leur union, il a reçu du coup de l'argent qu'il n'avait jamais obtenu auparavant, ce qui lui a permis d'équiper sa maison, notamment en ustensiles, matelas, mobilier et postes récepteurs. Sur le plan nutritionnel, une dame s'est réjouie d'avoir amélioré l'alimentation de sa famille avec du poisson, une denrée pourtant rare dans leur contrée. Grâce à la construction du marché du Tipo, a-t-elle dit, elle vend chaque fois sa chikwang et au retour, elle achète du poisson que sa famille consomme régulièrement. Autant de témoignages qui ont convaincu le bailleur de l'impact socio-économique de ce projet. Bandaka, Porsche Malingela, Eco d'économie.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Guy Manzangou, la mise en onde, et vous, vous l'avez suivi. Merci.